Bonjour, bienvenue dans Politique. Notre invité aujourd'hui, Pierre Joxe. Bonjour Pierre Joxe. Vous êtes ancien ministre, vous avez été en charge de l'industrie, de la défense et de l'intérieur. Vous étiez en poste à Beauvau de juillet 84 à mars 86, puis de mai 88 à janvier 91. Vous avez par ailleurs été premier président de la Cour des comptes et également membre du Conseil constitutionnel. Alors, quelques centaines de policiers se sont rassemblés hier dans plusieurs villes en France. Ils entendaient manifester leur colère après les propos d'Emmanuel Macron une semaine plus tôt au sujet des violences commises par des policiers. Voilà qui augure mal du Beauvau de la sécurité qui doit être organisé début janvier. L'objectif de ce grand raout, améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre et consolider leur lien avec la population. Un lien distendu, si une majorité de Français continue à faire confiance à la police, selon un récent sondage, cette confiance est en net recul, comme en témoigne notamment la forte opposition à l'article 24 de la loi de sécurité globale. Mais qui est responsable de ces tensions entre forces de l'ordre et population? Comment y remédier? Et plus largement, comment maintenir l'ordre dans un état de droit? Bien voilà les questions que nous allons aborder en votre compagnie, Pierre Joxe, dans ce nouveau numéro de Politique. Alors, il se trouve que vous signez l'édito d'une revue très intéressante, revue trimestrielle, dont le dernier numéro est consacré au rapport police-population. Cette revue, elle s'appelle Après-demain. Et vous concluez votre édito par ces mots. Il est indispensable de restaurer le lien entre police et population, condition essentielle de la confiance dans les institutions démocratiques. Est-ce que ça veut dire, Pierre Joxe, que vous considérez que ce lien entre la police et la population est rompu aujourd'hui?
Restaurer, réparer, ça ne veut pas dire reconstruire le lien entre police dans un pays démocratique comme la France et la population. C'est toute une histoire ancienne, très mauvaise du temps de Fouché. Bien meilleur du temps de Clémenceau, qui est le premier à introduire dans les techniques de maintien de l'ordre d'éviter qu'on tire pendant très longtemps. Tout le 19e siècle, l'ordre public, ça se fait à la mitrailleuse, ou plutôt au tir à mitraille. Charge de cavalerie, fusillade. Bon. Clémenceau, pour la première fois dans l'histoire de France, a théorisé le fait qu'on doit... Le maintien de l'ordre, c'est pas la guerre. On ne doit pas tuer. Bon, ça a changé. Il y a eu les épisodes du avant le Front populaire... Il y a eu le 6 février 34. Le 6 février 34, c'est un moment où une foule menée par l'extrême droite a failli conquérir la Chambre des députés. Et c'est une des charges. Il y a eu de nouveau des charges de cavalerie. Il n'y a pas eu de feu, de tir de feu, de fusillade, mais il y a eu des morts. Et puis il y a la libération. Et puis il y a la guerre d'Algérie. Et puis il y a toute une histoire. Donc c'est ce lien entre la police et la population. Il évolue comme toute histoire. Et tout, on doit se placer dans l'histoire, surtout France Culture, parce que d'ailleurs au passage. Moi, j'admire beaucoup France Culture depuis toujours. Généralement, c'est passionnant. C'est rarement ennuyeux. C'est toujours instructif.
Ah, ça, plus... c'est gentil. Je vais être obligé de vous poser des questions gentilles, du coup, Pierre Joxe.
Mais est-ce que... Vous pouvez être aussi désagréable que vous voulez. Vous ne serez jamais autant que moi quand j'ai décidé de l'être. Mais je peux ne pas l'être aussi.
Ouais, je suis sûr que vous n'allez
Par
pas
exemple, aujourd'hui, je viens d'entendre sur France Culture, en venant vous voir, qu'on se préparait à établir une Singapour sur Tamise. Alors, c'est vrai que si les Anglais commencent à imaginer que leur avenir, c'est Singapour, eux qui ont été les grands colonisateurs de l'Extrême-Orient et que maintenant le modèle de Londres, c'est Singapour, c'est toute une fraction du monde qui s'ouvre à nos yeux.
Bon, mais revenons à l'état des liens entre la police
l'état
et la population.
L'état des liens entre la police, vous diriez qu'il a varié dans le temps.
Vous diriez qu'aujourd'hui, justement, alors, il est plutôt dans une... comment dire, il vous rappelle plutôt
ni
une époque
moi,
où ça...
Ni vous ni moi n'en savons rien, parce que nous ne sommes pas dans l'institut de sondage. Les instituts de sondage, vous savez qu'ils font des sondages, ils corrigent tous les chiffres. Donc c'est des indicateurs, c'est comme les baromètres. On sait que ça monte ou que ça descend, on ne sait pas très bien où ça en est. En revanche, ce que je peux vous dire...
Il y a justement un sondage, Pierre Joxe, qui dit que depuis deux ans, la confiance dans la police a baissé.
Aucune importance, une vraie importance au sondage. À l'évolution des sondages, oui. Ouais. Qu'il y ait une évolution négative, on le sait bien, puisqu'on le voit dans la rue. Bon. Et ça me rappelle une époque, là aussi, il n'y a pas très longtemps, quand Mitterrand était président, et Badinter, ministre de la Justice, il y a eu un certain nombre de centaines de policiers qui sont allés à la place Vendôme, et ils ont déposé leur képi. À l'époque, ils avaient des képis pour montrer leur désaccord avec le ministre de la Justice. Bon. Le rapport police-population, c'est très important. Les rapports justice-police, les rapports justice-police, c'est peut-être encore plus important. Regardez ce qui se passe en ce moment au palais de justice. Parce que, évidemment, dans tous les métiers, Il y a des gens qui font des abus, qui font des erreurs et parfois qui commettent des délits. Tous les métiers, c'est vrai dans la police, c'est vrai chez les notaires, il y a des notaires véreux, il y a des médecins marrants, il y a des hommes politiques qui font des tourments de fonds publics ou qui volent. Il y a quand même, malheureusement pour moi, je dois le dire, moi qui suis de la Cour des comptes depuis mon origine jusqu'à ma retraite à la Cour des comptes, il y a un ancien membre de la Cour des comptes qui a été condamné, après 15 ans de procédure de retardement, à 2 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics. Il était président de la République juste avant, c'est Chirac. Quel est le métier dans lequel il n'y a pas des gens qui commettent des infractions? Quel est le métier? Bon, par conséquent, le problème, c'est pas ça, de savoir où en est la situation. C'est dans quel sens ça évolue. Alors, il semble en effet que, dans la période actuelle, qui est quand même très dure pour tous les métiers, pour les médecins, pour les infirmières, pour les personnes de santé, pour les commerçants, pour les artistes, la culture, tout ça. Bon. Et pour les policiers, c'est une période chaude. Bon, que ça provoque un accroissement de tensions et de difficultés, et parfois d'erreurs, c'est un fait, on le voit, on le sait bien.
Alors, je vais vous poser la question autrement, mais pour la poursuivre, hein, Pierre Jox, est-ce que vous, aujourd'hui, si on vous posait la question, est-ce que vous faites confiance dans la police?
Ça n'a pas de sens. Excusez-moi, votre question n'a pas de sens. Parce qu'il y a des policiers que je connais très bien depuis toujours, qui ont travaillé avec moi pendant des années, je leur fais confiance. On me dirait, le pire chose, je ne croirais pas. Il y a d'autres que je ne connais pas. Comment voulez-vous quelque chose? Il y a combien de policiers en France?
Comment ça, vous ne croiriez pas si on vous disait les pires choses? Ça veut dire que, par exemple, quand vous étiez ministre de l'Intérieur, s'il y avait des informations de cet ordre qui remontaient, oui, vous faisiez d'abord confiance aux policiers?
Pas du tout. Je faisais d'abord confiance à mon bon sens. Quand on m'a appris qu'il y avait un commissaire de police dans une ville que je n'aimerais pas, qu'il y avait une matraque électrique et qu'il avait martyrisé un petit malfaiteur avec une matraque électrique, j'ai dit qu'on le suspende immédiatement. On va dire, ah non, on peut pas suspendre un commissaire, il faut une procédure. La procédure, pas procédure. Et ce prochain qui me dit que c'est pas possible, je le suspends moi-même. Pourquoi? Parce qu'un commissaire de police en France n'a pas une matraque électrique, ça c'était en 1984. Bon. Donc j'en ai sanctionné des policiers. J'ai jamais eu de problème avec ça. Les syndicats de police à l'époque étaient très... J'ai une chance, c'est que les syndicats de police étaient très importants, très organisés, unifiés autour de la Fédération Autonome des Syndicats de Police, dirigée, enfin, le secrétaire général, c'était Bernard Delaplace. J'espère qu'il m'écoute actuellement dans le fond de la Corse où il va à la chasse. Et je le salue parce que un syndicaliste comme Delaplace, comme d'autres, bien d'autres syndicalistes dans le droit du travail, dans le droit ouvrier, etc., joue un rôle majeur. Pourquoi? Savoir négocier, savoir améliorer. Et il a obtenu pour la police, pour les fonctionnaires, pour la sécurité de la police, d'autant plus de choses que moi, j'étais chargé par Mitterrand de rénover la police nationale. Et il m'a donné les moyens de cela. Parce que pour rénover un service, qu'est-ce que c'est que la police nationale? Quels sont les grands services publics en France? Le plus grand, c'est l'éducation nationale. Ouais. L'éducation nationale, c'est à peu près plus de 70 milliards par an. Et c'est des centaines de milliers de professeurs, d'instituteurs, etc. Le deuxième, tout de suite derrière, c'est les armées. 45 milliards par an. Après, derrière, c'est la police, sécurité. 20 milliards par an. C'est-à-dire que tous les autres sont des nains. Le géant, c'est l'éducation nationale. La police, la sécurité, avec la nouveauté depuis quelques années, c'est que la gendarmerie est intégrée dans le ministère de l'Intérieur, c'est le troisième grand service public. Or, il n'a bénéficié qu'une seule fois d'un grand plan de modernisation quinquennale, pluriannuel, etc. C'est quand Mitterrand m'a nommé ministre de l'Intérieur, j'avais exigé de faire une plan de loi de programmation en disant il faut faire comme pour l'armée. La sécurité intérieure est aussi importante que la sécurité extérieure. Donc, on fait une loi de modernisation, on n'a jamais recommencé.
Il y aura peut-être une deuxième, d'ailleurs, Pierre Jox, puisqu'après le Beauvau de la sécurité, il devrait y avoir un plan de programmation sur la sécurité intérieure.
Je vous parle de ce que j'ai vu.
Oui, bien sûr.
Depuis que j'étais étudiant, il y avait des plans de modernisation de la défense. La défense a été construite en France. Alors, il faut quand même
vous expliquer
qu'avant d'être ministre, vous avez donné un ordre inverse. Là, vous avez dit que j'étais ministre de l'intérieur.
Alors, j'ai pas forcément fait dans l'ordre. C'était pour parce que si on déroulait tout le CV, ça nous amenait jusqu'à la fin de l'année. Non, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué.
Vous pouvez pas me couper la parole,
Pierre Jox.
Je dis des choses aussi importantes que avoir été ministre de la Défense après avoir été ministre de l'Intérieur pendant 5 ans. Ça, c'est une expérience. Découvrir ce que c'est qu'un ministère où il y a des lois de programmation depuis 50 ans. Vous croyez qu'on aurait des porte-avions comme on a, des avions comme on a? Si on n'avait pas eu des lois de programmation militaire, vous croyez qu'on aurait une armée comme elle est si on n'avait pas eu un cadre financier, budgétaire et psychologique aussi important? pour gérer quoi? 45 milliards, c'est vrai. Mais l'intérieur, la défense, la police, c'est 20 milliards. C'est pas une bagatelle, c'est le troisième budget tout de suite. Par conséquent, s'inspirer de ce qui se passe au ministère des Armées, qui se passe dans la défense en matière de gestion, de formation des personnels, d'équipement des matériels et de budgétisation contractuelle, c'est vital. Et quand je dis il y a des choses qui me rappellent le passé, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation qui me rappelle un peu la période de la crise avec Mitterrand. Et naturellement Badinter qui n'était pour rien, parce que quand un juge prend une décision, c'est pas le garde des Sceaux qu'il faut mettre en cause, c'est généralement plutôt le malfaiteur ou l'avocat.
Je voudrais revenir sur un des éléments que vous avez évoqué. Vous évoquez tellement de choses intéressantes que ça me donne envie forcément de rebondir, Pierre.
Rebondissez.
Vous avez parlé notamment de la place du syndicalisme et du syndicalisme policier. Vous-même, vous avez été syndicaliste dans votre jeunesse, vous étiez à la CGT. Est-ce qu'un des changements aujourd'hui, qui pourrait aussi expliquer peut-être ce délitement du lien entre la police et la population,
évidemment,
ça n'est pas la place perdue
évidemment
par le syndicalisme, pas seulement policier, mais plus largement par les organisations syndicales.
Quand j'étais étudiant, j'ai participé à des centaines de manifestations pendant la guerre d'Indochine, pendant la guerre d'Algérie. J'étais arrêté par la police 4 ou 5 ou 6 fois. J'étais même un petit peu matraqué, mais très peu. À l'époque, c'était assez gentil. Et nous, on ne tapait pas sur les flics, c'est vrai. Ils ne tapaient pas beaucoup dessus, mais nous, on ne leur tapait jamais dessus. C'était comme ça. Mais à cette époque-là, je peux vous dire que les syndicats jouaient un rôle majeur. Une grande manifestation était toujours encadrée par des centaines, parfois des milliers de syndicalistes qui se tenaient par la main, qui encadraient la manifestation. Et les flics, enfin les policiers, à l'époque c'était uniquement les gardiens de la paix, on voyait rarement de CRS dans les rues de Paris, sauf dans les grandes crises. Le travail était partagé, le travail d'ordre public était partagé entre les organisateurs de la manifestation, qui devait et qui doivent toujours déclarer une manifestation de rue, surtout importante dans une grande ville. Deuxièmement, les services de police qui faisaient du renseignement, qu'est-ce qui risque de se passer, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Troisièmement, les syndicats, y compris les syndicats de police, qui faisaient partie du service d'ordre d'une certaine façon préventif. Et quand ça tournait mal, ce qui arrivait, et que ça tournait mal avec les casseurs, avec des choses qui ont été connues, c'était plus compliqué. Et là, il y avait effectivement des bavures. Mais des bavures, il y en avait de tous les côtés. D'abord, les Black Blocs. Qu'est-ce que c'est que les Black Blocs? C'est une énorme bavure. Comment dans Paris peut y avoir des centaines de mecs armés, déguisés, camouflés, armés avec des armes de poing, avec des armes, et ils peuvent impunément saboter une organisation, une manifestation de plusieurs milliers de bons Français, de bons Parisiens qui veulent. C'est possible à répétition.
Et une bavure de qui?
De l'État. Les bavures dans l'ordre public, c'est toujours des bavures de l'État. Les bavures de policiers, ça arrive, c'est des bavures du commandement, de la formation, c'est des bavures de l'organisation. Et les grandes bavures, c'est quand il y a des drames comme à Charonne. Moi, j'étais manifestation pour Charonne, quand il y a eu, comme ça, des gens qui sont morts dans une bouche de métro parce qu'on leur balançait dessus, des voyous, et malheureusement...
C'était pendant la guerre d'Algérie, il faut rappeler.
C'était la fin de la guerre d'Algérie. Des plaques de fonte qui font les cadres dans des arbres. Par conséquent, des drames, il y en a eu depuis très longtemps. D'ailleurs, la fusillade de Fourmies au début du 19e siècle, c'est ça qui a motivé Clémenceau, qui a dit non,
grève d'ouvriers.
L'ordre public, c'est pas la mort, c'est pas la grève. Le chant, vous connaissez, le brave soldat du 17e, après la ruine des vignerons du Midi à cause du phylloxéra, les gens étaient conduits à la misère, ils avaient faim, il y avait des enfants qui mouraient de faim. Et on a envoyé la troupe pour tirer sur les manifestants. Et la troupe, c'était des soldats locaux, ils ont mis la crosse en l'air, ils ont refusé de tirer. D'où cette chanson magnifique, « Salut, salut à vous, brave soldat du 17e, salut, brave piou-piou, chacun vous admire et vous aime, salut, salut à vous, pour votre geste magnifique, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. » Oui, la prochaine fois, m'invitez à France Musique.
Pierre Jox,
mais vous avez compris ce que c'est que ce chant?
Absolument.
Est-ce que c'est un chant de révolutionnaire? Est-ce que c'est un chant séditieux? Non, c'est un chant de populaire qui reconnaît que des soldats qui ont refusé de tirer sur la foule méritent d'être félicités et pas fusillés, condamnés, envoyés, etc. Et là, c'est tout un problème. L'ordre public, on peut pas le juger in abstracto. Aujourd'hui, la situation de la France, elle est terrible pour tout le monde, surtout pour les travailleurs les moins protégés par le droit et les moins bien payés, et ceux qui ont moins de travailleurs. Et il est terrible pour la police. Pourquoi ? Parce qu'on lui demande des choses je dis pas impossible, très compliqué. Moi, j'ai dirigé les services de police quand il y a eu une manifestation d'enfants à Paris, de lycéens, et j'ai appris que la SNCF mettait des trains gratuits, des TGV gratuits pour amener des centaines, pour amener des milliers de gosses à Paris. J'étais fou furieux.
C'était Jospin qui était ministre de l'Éducation. Comment ? À l'époque. C'était Lionel Jospin qui était ministre de l'Éducation, à l'époque, me semble-t-il.
Peu importe qui était ministre de l'Éducation. Bon, je sais qui dirigeait la SNCF. Non ! Le responsable d'envoyer des trains, de mettre des trains gratuits pour les enfants, pour Paris, pour aller à la manif.
C'était le patron de la SNCF.
Peu importe qui c'était un âne. Ouais. Et j'ai réuni 200 officiers de police en leur disant, demain, il va y avoir une manifestation. Il va y avoir des centaines d'enfants, des milliers d'enfants. Le parcours de la manifestation, on peut pas en répondre. Ils peuvent passer près de la Seine puisqu'ils voulaient aller à l'Assemblée ou à l'éducation. Eh bien, je vous demande de veiller qu'il n'y ait pas de mort. Alors qu'il y ait des vitrines cassées, qu'il y ait des blousons volés, des godasses piquées, c'est très ennuyeux. Pas d'enfants morts par une manifestation où la police veille à la sécurité de tous. Et la Fédération Autonome des Syndicats de Police a doublé son service d'ordre syndical et il n'y a pas eu de mort.
Est-ce que c'est ça la grande crainte, Pierre Joxe, quand on est ministre de l'Intérieur, que des manifestations puissent dégénérer et qu'il y ait des morts ?
Non, de mon temps, c'est rare qu'il y ait des morts, et quand il y en avait, quand on est ministre de l'Intérieur, on croit qu'on peut tout, non, mais qu'on peut beaucoup de choses, et si on a la confiance des cadres, si on a des fonctionnaires de police qu'on connaît à ses ordres, si on connaît le préfet de police, si on connaît les certains unités commandantes de CRS, on a confiance. Moi, vous savez, j'ai commencé dans la police, ma vie. Personne ne le sait, mais je peux vous faire une révélation.
Ah bah oui. Vous faisiez quoi dans la police ?
J'étais officier de l'armée de l'air en 58, 59, 60. Et j'étais en Algérie, on m'envoyait au Sahara parce que j'étais considéré comme un officier pas très sûr. Et quand De Gaulle a fait le discours de 16 septembre 59 annonçant l'indépendance de l'Algérie, tout d'un coup je suis devenu un officier très sûr. J'étais officier de la sécurité militaire. On m'a ramené à Alger et là, comme officier de la sécurité militaire, j'ai fait de la police politique en recherchant les prodromes de l'OAS, des officiers. J'étais dans toute l'Algérie. Bon. Et... auparavant, dès le 24 janvier 60, j'ai vu des gendarmes mobiles se faire tirer comme des lapins au fusil mitrailleur par deux tirs croisés de fusil mitrailleur qui descendaient l'escalier du gouvernement général vers la Grande Poste. Ils ont ramassé 19 morts, il y a eu encore des blessés. Et quand je suis monté un peu plus tard là-haut, j'ai vu qu'il y avait des officiers de CRS, on avait relevé la gendarmerie, on avait amené des CRS. Et les officiers de CRS m'ont dit, mais c'est des fascistes tout ça. Pourquoi on a relevé la gendarmerie ? Parce que les gendarmes, ils avaient 19 morts et encore 20 blessés. On s'est dit, si on les laisse à faire le service d'ordre, ils vont tirer dans la foule. Il y aura des morts. Et on a mis les CRS. Et les CRS, c'est leur formation. Ils savent les choses les plus difficiles. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de morts. D'abord, qu'ils ne tirent pas. Vous savez que les CRS n'ont plus tiré pendant très longtemps, depuis les grèves insurrectionnelles de 1946 ou 47, etc. Donc je sais qu'on peut avoir confiance. J'ai envoyé des CRS pour la première fois outre-mer en Nouvelle-Calédonie, quand j'ai appris que d'autres services que je ne nommerai pas laissaient passer les canaques pour les faire piéger chez les Kadoches, c'est-à-dire les Blancs qui les massacraient. Donc je sais qu'il y a des services dans lesquels on peut faire totalement confiance quand ils sont bien encadrés,
quand ils
sont bien formés.
Est-ce que ça veut dire à l'inverse, Pierre Joxe, qu'il y en a peut-être dans lesquels on peut, si ce n'est avoir moins confiance, en tout cas qu'ils ne sont peut-être pas aptes à assurer le maintien de l'ordre? On a vu par exemple, il y a quelques jours de cela, l'évacuation de camps de migrants en place de la République à Paris, effectuée par des services de la BAC. Est-ce que ça, pour vous, c'est une erreur de commandement que d'avoir envoyé des policiers de la BAC pour procéder à ce type d'évacuation? Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui confronté aussi peut-être à un mélange des genres dans le maintien de l'ordre?
Ouais, tout le monde ne sait pas ce que c'est que la BAC. Pour beaucoup de gens, le BAC, c'est le baccalauréat. Vous et moi, on sait que la BAC, c'est les brigades anticriminalité. Ce sont des policiers qui sont entraînés à faire ce qu'on appelait autrefois du saute-dessus. Bon, et voilà. Leur formation n'est pas le maintien de l'ordre. Mais quand on est dans une circonstance exceptionnelle, on peut comprendre que malheureusement, faute d'effectifs disponibles, faute de moyens de liaison, accès, on fasse appel à ceux qui sont disponibles. À ce moment-là, ça peut être des gens de la BAC. Et ils peuvent faire ça très bien ou très mal. C'est ça l'imprévu. C'est ça la difficulté des tâches de police dans les périodes de crise. Et je peux vous dire que, dans le cas de l'Algérie, on était servis parce qu'il y avait des bombes un jour sur deux. Parfois, il y en avait trois par jour, etc. Et il s'agissait de trouver les gens qui préparaient ce qu'est l'OAS. Aujourd'hui, comment se fait-il que ces 200 ou 300, je sais pas combien ils sont, ces BAC blocs, il y a longtemps que je vais plus dans les manifestations. Pourquoi ? Parce que je pense que je cours pas assez vite. Parce que moi, dans les manifestations, je ne me battais pas souvent, je me sauvais souvent. Pas toujours assez vite, d'ailleurs.
Si vous deviez courir vite aujourd'hui, ça serait pour échapper à qui? Au Black Box ou à la police?
Voilà le problème, vous voyez. Hein, vous posez bien la question, là, hein, c'est ça. Maintenant, je vous laisse soin de deviner, et éventuellement, vous serez poursuivi en justice pour diffamation, comme vous savez, j'en suis capable. Donc, le problème de maintien de l'ordre, c'est que tout d'un coup, une situation imprévue a des conséquences imprévisibles et peut avoir conduire à des drames qui sont très graves, heureusement pas souvent à la mort. Et je vous donne une très bonne transition sur le fait que la formation, elle doit être continue. Parce qu'un jeune flic qui a été recruté, s'il a été mal formé, c'est mal barré. S'il a été bien formé mais qui n'a pas de formation pendant 10 ans, 15 ans, il vient un vieux flic qui est plus formé. Qui même c'est même pas capable d'un ordinateur. Moi, je me suis occupé de la formation beaucoup. Pourquoi? Parce que j'y croyais. Parce que dans l'armée, je faisais ça aussi. Dans l'armée, j'ai fait de la formation dans l'armée de l'air, dans le Sahara, pour apprendre aux pilotes qu'il fallait pas strafer, ça veut dire mitrailler à basse altitude les chameaux. Parce que j'aurais dit, imaginez que les soldats américains, l'aviation américaine débarquant en Normandie en 46, imaginez qu'ils aient été strafer les vaches normandes, on n'aurait pas été très populaire. Donc, on ne tue pas. Sauf si c'est un ennemi qu'on a été missionné pour tuer. Bon, donc la formation, c'est mon deuxième point sur la formation, elle doit pas seulement être développée au recrutement, elle doit être continue. Moi, j'ai déjeuné avec des policiers, des gens qui passaient brigadier. Plusieurs me disaient, ah, monsieur le ministre, on est honoré. J'ai honoré de quoi? Ah ben, je me pensais qu'il était honoré de déjeuner avec moi, pas du tout. On est honoré. Je dis, honoré de quoi? Eh bien, vous savez, c'est la première fois de ma vie que on me consacre une journée entière à me parler du droit, de l'histoire et de faire de la formation. Pour nous, ça justifie après 20 ans de police, etc.
Qu'elle doit être continue, la formation Pierre Jox? Est-ce qu'elle doit être continue dans la carrière d'un policier?
Oui.
Parce que les conditions de l'exercice du maintien de l'ordre évoluent.
C'est-à-dire, oui.
Parce que on ne maintient pas l'ordre de la même manière en 68, par exemple, en mai 68, et aujourd'hui en 2020.
Elle doit évoluer aussi parce que pour sélectionner des bons cadres, il faut avoir bien formé la troupe. Pour bien recruter des sergents ou des adjudants ou des officiers sortis du rang, il faut que la troupe soit bien formée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut développer, qu'on a vu dans la gendarmerie. Parce que vous me parlez que de la police. Mais la police, en partie, les tâches de police en France, elles sont maintenant partagées entre la police et la gendarmerie nationale. Et la gendarmerie nationale, c'est pour ça que je dis qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe dans l'armée. Pourquoi est-ce que la gendarmerie nationale, pendant si longtemps, avait un peu la cote? Parce qu'elle était formée comme à l'armée depuis toujours, depuis le 19e siècle. La formation, c'est majeur. Dans la police, c'est arrivé très tard. La gendarmerie nationale, elle était formée comme dans l'armée, avec les passations de grade, formée avec des diplômes, avec des examens. La tradition de la formation dans la gendarmerie, c'est une chose. Deuxièmement, la gendarmerie nationale, elle est aussi bénéficiaire des programmes de modernisation militaire. Parce que les camionnettes de gendarmerie pendant très longtemps, ce n'est plus vrai aujourd'hui, les camionnettes de gendarmerie, l'armement de la gendarmerie, ils dépendaient des lois de programmation militaire. Donc les lois de programmation militaire, depuis un demi-siècle, ont bénéficié à la défense nationale et indirectement à la sécurité intérieure par la gendarmerie pendant longtemps. Et moi, ce que je dis, c'est que maintenant, il faut absolument une première loi de programmation militaire, jurée, crachée, que c'est pour toujours maintenant, on va appliquer à la sécurité intérieure les mêmes règles de programmation, de formation, de modernisation du personnel que l'armée. Pourquoi est-ce que... imaginez qu'on dise à le char d'assaut du commandant Attel, il est tombé en panne dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut arriver, une panne. Mais les bagnoles de la gendarmerie ou de la police tombent trop souvent en panne. Pourquoi? Parce que quand une bagnole a 250 ou 300 000 km, comme c'était le cas il y a 30 ans qu'on a changé tout ça, eh bien... C'est comme si on n'avait pas de voiture. Quand on a des radios cryptées qui ne marchent pas, quand on a des transmissions qui sont en panne, c'est qu'on n'a pas de transmission. Or, les voyous, eux, ils ont toujours des voitures qui marchent. Ils ont toujours des radios impeccables. Ils ont toujours des avocats formidables qui les défendent. Donc, l'équipement, la formation et la programmation pluriannuelle de la police nationale, c'est une nécessité historique.
Et on verra bien ce qu'il advient justement de ce projet de loi de programmation promis par Gérald Darmanin.
Dans 10 ans.
Quand il verra le jour.
On jugera le projet dans 10 ans.
Oui, enfin,
qu'il ait été appliqué et renouvelé une nouvelle fois pour 5 ans. Et ensuite pour 5 ans. Ça ne sert à rien. La preuve, moi je l'ai fait. Je croyais que c'était réglé pour toujours. J'avais l'aide de Pandreau. Pas de Pasqua qui était un peu spécial. Mais Pandreau, qui était vice-ministre. C'est grâce à lui que ça a été continué quand j'étais pendant un moment absent du ministère de l'Intérieur. Et ça peut recommencer et continuer. La France n'est pas plus bête qu'un autre, hein. Pourquoi est-ce que les Allemands, ce que font les Anglais, on peut le faire aussi. D'ailleurs, on l'a fait, il n'y a qu'à recommencer.
Pierre Jox, vous avez dit quelque chose de très fort tout à l'heure, je trouve, à propos des bavures. Vous avez dit, les bavures, elles sont rarement policières.
Bon, alors, ça peut, en tout cas,
vous avez dit.
Les bavures des services publics, c'est toujours des bavures de l'État.
C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire, il peut y avoir des individus.
Dit mieux que vous.
Oui, mais parce que vous m'avez pas laissé aller au bout de ma phrase. Peut être fait par des individus, mais la responsabilité, en gros, c'est une responsabilité de l'État, une responsabilité du commandement. Est-ce que ça veut dire que le ministre de l'Intérieur est le premier responsable lorsqu'il y a des bavures et qu'il doit en tirer des conséquences politiques systématiquement?
Qu'est-ce que vous appelez des conséquences politiques?
Une des conséquences, ça peut être par exemple de démissionner.
Oui, moi j'ai démissionné 3 fois. Tant de Mitterrand, personne ne l'a jamais su. Je l'ai présenté à ma démission une fois quand un prisonnier politique avait été extradé par erreur vers le pays. On était sûr qu'il serait liquidé. J'étais voir Mitterrand, je dis, ce type est condamné à mort par ma faute, je présente ma démission. Il m'a dit, mais non, on va arranger ça. Finalement, c'est difficile. Une deuxième fois, une troisième fois, je dirais pas pourquoi, ça concerne d'autres personnes, mais j'ai démissionné quand on sent qu'on n'a pas fait, quand on croit qu'on n'a pas fait face à ses responsabilités. Il faut le faire, bien sûr. Et puis, Mitterrand a refusé. Je trouve qu'il a bien fait. Pas par amour propre, parce que moi, vous savez, mon métier, j'avais un métier, j'ai abandonné mon métier, je l'ai repris, j'étais magistrat, j'avais pas besoin d'être dans la politique pour vivre. Par conséquent, bien sûr qu'il faut pouvoir démissionner. Mais c'est pas la question. On résout pas tout en démissionnant. Parce que, par exemple, là, dans le cas dont je vous parle, ce prisonnier politique qui a été... J'étais vraiment, pendant plusieurs nuits, je dormais pas. Je pensais qu'il était mort et c'était ma faute. Finalement, il était pas mort. Alors, il a été renvoyé en France. Donc, après, j'ai dormi. Mais, parfois, on est trahi par... J'ai jamais su si j'étais trahi par quelqu'un qui a fait ça volontairement ou si c'est quelqu'un qui a fait une erreur. Je l'ai muté. Mais je l'ai pas muté 3 jours après. Surtout que en 3 jours, j'étais un peu démissionnaire. Je l'ai muté 3 mois après. Pour une autre faute. Sans lui dire ce que je pensais de la première. Parce que, voilà, bon, on règle pas des comptes, dans la vie politique, il y a les juges qui prennent des décisions. Sans ça, dans la vie politique, on prend des décisions qui sont toujours sujettes à caution.
Pour terminer, parce qu'on est déjà au terme de cette émission, il y a eu un livre qui a été publié il y a quelques temps par le journaliste Laurent Huberson qui s'appelle « Vue de l'intérieur », qui raconte le ministère de l'Intérieur avec des interviews d'anciens ministres, dont vous, et vous expliquez notamment que vous considérez que c'est une erreur quand on est ministre de l'Intérieur de se considérer comme le premier flic de France. « Je n'ai jamais partagé le coup pour la mise en scène que certains ont affectionnée. J'ai toujours eu l'attitude exactement contraire. » Un bon ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, c'est un ministre qui sait rester discret.
Oh, j'ai jamais dit ça. Je suis pas spécialement discret. Je peux être secret, mais discret, non.
C'est pas l'attitude ça, c'est... exactement contraire de la mise en scène. Moi, non, je dirais que c'est de la discrétion.
Ben voilà, ça c'est votre vision des choses. C'est Clémenceau que je respecte beaucoup. Il disait, je suis le premier flic de France. C'était il y a plus d'un siècle. La police nationale, il y a un siècle, n'existait pas. Les polices étaient largement municipales. Il y avait des commissaires de police dans les grandes villes. Et Clémenceau, il a fait bien mieux que ce que tout ministre de l'Intérieur peut faire. Il a dit, on ne tue plus, on ne tue pas des manifestants, des grévistes, on ne tue pas. On fait la police, on fait pas la guerre. Bon, il pouvait dire après ça, je suis le premier flic de France. Mais d'une certaine façon, il était le premier à dire que les flics de France, c'est les flics de France, ils ne tuent pas. Sauf évidemment, légitime défense, etc. C'est pour ça que j'admire beaucoup Clémenceau. Après, Clémenceau, il a eu un rôle beaucoup plus important. C'était le père de la victoire. Hein, il est devenu le commandant en chef pendant la guerre. Voilà pourquoi. Maintenant, je voudrais juste... Moi, pour sur un point, juste terminer sur une chose, je vous ai dit, j'insiste sur ces 3 points, c'est-à-dire la formation, la modernisation des personnels, je parle des radios, je parle des moyens de transport, etc. Ouais. Et la programmation budgétaire. L'État fonctionne pas sur une base annuelle, il ne s'arrête pas année après année. Il faut donc une programmation pluriannuelle pour la police comme pour l'armée.
Et ben on va suggérer à Gérald Darmanin de vous inviter au Beauvau de la sécurité qui aura lieu en janvier prochain. Merci infiniment, Pierre Jox.
Il n'y a aucune qualité.
Quand même quelques...
Les Beauvaux, c'est comme les Grenelles. Ça fait venir des syndicalistes en exercice, en activité. Moi, je suis un modeste retraité.
Merci, Pierre Jox, d'être sorti de votre retraite du coup pour participer à cette émission politique. Émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par François Connac avec à la prise de son Élise Leu.